Je vous invite à lire un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, des versets 13 à 35. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qu'il s'est passé ces jours-ci » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent « Ce qui arrivait à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnées. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Jusqu'ici notre lecture.
Merci. Parce que nous allons pratiquer ce matin vraiment le principe même de l'enseignement. C'est qu'on dit une chose, une fois, ce que le pasteur a dit, on le redit par les chants, on le redit par la lecture, et je le redis toujours par... C'est ce que je vais dire, pour dire ce que je vais dire maintenant. C'est vraiment, tout a été déjà dit ce matin. Mais c'est comme ça. Oui, nous voyons ici dans cette... Ce matin de Pâques, les disciples, dans leur tristesse, avancent, non, toujours, ce chemin d'Emmaüs. Ils rencontrent le Seigneur. Mais on se rend compte qu'ici, vraiment, le Seigneur n'est pas tendre avec eux. Et quand on parle de disciples, vraiment, je pense que nous pouvons tous nous inclure dedans. Le Seigneur ici leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Il fallait. Pour un jour de Pâques, nous trouvons, c'est vrai, ces paroles de Jésus un peu fortes, sanglantes même. Mais il voulait juste les faire comprendre que ce qui est arrivé depuis 3 jours, sa mort, sa résurrection corporelle, sont écrits dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ces souffrances, oui, comme on l'a dit ce matin encore, ces souffrances faisaient partie du plan de Dieu. Sa résurrection se trouve au cœur même de la foi chrétienne. On ne peut pas se dire disciple de Jésus-Christ si on ne croit pas qu'il est ressuscité corporellement. Oui, sa résurrection, je dis bien, se trouve au cœur de la foi chrétienne. Mais si ce reproche est compréhensible, logique même de la part du Seigneur, parce que tout est écrit, donc il aurait fallu simplement qu'il lise. Mais nous pouvons aussi comprendre ses disciples, leur désarroi. Parce que ce Jésus, plein de force et de puissance qu'ils avaient vu, celui qui avait guéri les malades, celui qui avait guéri les lépreux, ce Jésus avait donné la vue aux aveugles. Il nous dit que ce Jésus avait chassé des démons, même avait ressuscité des morts. Mais ce Jésus a été cloué à la croix au milieu des brigands. Il a été moqué même par les chefs religieux. Si tu es fils de Dieu, il lui disait, mais descends de la croix. Toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Donc ça devait, pour ses disciples qui avaient cru, qui avaient vu, entendu cela, quelque chose n'allait pas. Au-delà même de moquerie, le silence même de Jésus se taisait. Le Seigneur dit à ses disciples, sur ce chemin, il fallait que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, tout ce qui le concerne. Oui, parce qu'il y avait des preuves. Le Seigneur aurait voulu vraiment que les disciples comprennent. Il y avait des preuves. Il était écrit avant sa venue dans le monde que Jésus connaîtrait le rejet de l'humanité. Le moment de souffrance, il dit, c'était écrit. Nous l'avons lu, nous avons même l'habitude de lire ces textes. J'aimerais juste faire vite un survol là-dessus. Ce matin, Ésaïe chapitre 53, quelques versets, versets 10 à 11, qui dit ici, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » Mon serviteur juste, oui, il est écrit. Vous savez, l'une des accusations lors de son procès, il avait dit que ceux qui se sont posés comme témoins, ils sont venus, il avait dit qu'il détruirait le temple et lui qu'il le reconstruirait 3 jours après. Parlais-tu du temple des pierres? Pouvait-il construire un temple en 3 jours? Non, il parlait bien de sa mort et c'est de sa résurrection. Il donne ses preuves sur la croix. Qu'est-ce que fait le Seigneur pendant qu'il est persécuté? Il prie pour les disciples, même pour ceux qui le persécutent. Il prie. Nous voyons que même dans ce moment-là, notre Seigneur, il reste en communion avec Dieu. Il reste en communion avec son Père. Oui, il n'était pas surpris par la méchanceté des hommes. C'était une réaction normale d'un monde vivant dans le péché. Pour le Seigneur, il ne pouvait que prier pour ces gens. Il ne pouvait que prier pour nous dans le péché. Une des paroles, il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Je remets mon esprit. Pourquoi? Parce que personne n'a ôté sa vie. Il avait le pouvoir, comme il lui-même l'avait, il avait le pouvoir de donner sa vie, il avait le pouvoir de reprendre. Et c'est ce qu'il a fait avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, je passerai, le temps ne le permettrait pas même. Je citerai vraiment plusieurs versets. Je vous encourage simplement de lire et lire la Bible. Nous avons vu que commençant par Moïse et les prophètes, dont même Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres, avaient déjà annoncé. Peut-être vous pouvez lire chez vous dans Ésaïe chapitre 12 ou Nombre chapitre 19, qui disait ici, aucun de ces eaux n'a été brisé. C'était fréquent pour les Romains, même pour les Juifs, le jour de Pâques et la veille d'une fête comme celle de Pâques. Des gens étaient sur la croix et il fallait accélérer leur mort avant qu'ils ne commencent vraiment les festivités, les préparations. On nous dit, ils sont passés sur celui qui était à la croix avec Jésus, le premier. Ils l'ont cassé les genoux, les pieds, comme d'habitude. Ils sont passés sur le deuxième, ils l'ont aussi cassé les jambes. Et quand ils sont arrivés auprès de Jésus, ils s'est rendu compte qu'il était déjà mort. Donc ils ne pouvaient pas briser un de ses os. La parole de Dieu l'avait déjà annoncé. Le Seigneur était à l'œuvre. Le Seigneur contrôlait toutes choses. On mit son corps avec le riche, le fils du charpentier, celui qui n'a même pas pu avoir une maison où poser sa tête. On l'a encore lu ce matin. Qu'a fait Joseph, un de ses responsables du Sanhédrin, est allé demander le corps de Jésus pour le mettre dans son caveau qui n'avait jamais été utilisé. Et ça, ce n'était que des notables qui pouvaient avoir les caveaux. Le Seigneur a été mis dans un caveau d'un riche, comme la parole l'avait annoncé. Comprenez le Seigneur, pourquoi il dit aux disciples, ô hommes sans intelligence, parce que tout est écrit. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous triste? Tout cela a été annoncé. Et pour quelle raison? Acceptez autant de souffrances, parce que le passé nous l'a encore dit et relu. Il était conscient de souffrir. Il est conscient de mourir, conscient qu'il allait ressusciter. Jésus-Christ a pu ressusciter. On nous dit pourquoi. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Dans Jean chapitre 17. L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Oui, le Seigneur était au contrôle de toutes choses. Afin que le Père soit glorifié, le Père, gloire de Dieu, devait se manifester au ciel et sur la terre. Oui, le Père a accepté la rançon du péché, parce que le péché offensait Dieu. Et alors il fallait expier, il fallait ôter ses péchés. On ne pouvait pas ôter ce péché, on pouvait ôter ce péché que par le sang, et par le sang du juste. Oui, à cause du péché, il fallait qu'un juste meure. Parce que Dieu était offensé. Oui, c'est le Père qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il a aussi montré par là que les liens de la mort ne pouvaient pas retenir son Fils bien-aimé. Non, il ne pouvait pas. Il était impossible qu'il soit retenu par la mort. Donc en ressuscitant Jésus, Dieu a établi son autorité et confirmé que Jésus a tout fait, tout ce qui exigeait son plan, le sacrifice à la croix. On peut voir ça dans les psaumes. Le Fils a accepté de payer pour nos péchés afin que nous ayons accès auprès du Père. Et oui, frères et sœurs, est-ce que nous avons conscience de cela? Que nous avons aujourd'hui accès, grâce à la mort de Jésus-Christ, grâce à cette résurrection, nous avons aujourd'hui accès auprès de Dieu, quelle que soit la journée, l'heure de la journée. C'est une grâce. Oui, le Fils a accepté de payer pour nos péchés, afin que nous ayons aujourd'hui accès. La Bible dira, celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand Dieu nous voit aujourd'hui, Dieu nous voit avec la justice de Christ. Nous avons aujourd'hui la justice de Dieu en nous. Nous qui étions sans espérance. Oui, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, afin de justifier publiquement, comme le Fils véritable, le Fils qui a obéi. Oui, il a accepté d'aller à la croix jusqu'à la mort. Même s'il connaissait toutes ces choses, ce n'était pas quelque chose de facile. Ce n'était pas quelque chose, de léger. Mais il fallait que la justice de Dieu se manifeste. Il fallait que le Père soit glorifié. Parce que le péché avait été commis. Et il fallait expier ce péché. Mais aussi en ressuscitant Jésus-Christ, Dieu a manifesté son amour envers son Fils et envers nous. Et oui, comme la Bible dit, il a prouvé son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions sans espérance. La Bible nous dit, Christ est mort pour nous. C'est une preuve d'amour, cet amour qui se donne. Dieu n'a pas créé l'homme pour la perdition éternelle, non. Mais dans son amour, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes, parce qu'il s'est donné lui-même. Oui, comme disait une écrivaine, Simone Paco, à cause de la mort infâme de Jésus-Christ à la croix et du fait que le Père l'a ressuscité d'entre les morts, désormais pour l'homme, il ne s'agit plus de craindre le jugement ou de travailler pour son salut, non, mais d'accueillir l'amour dans la confiance et dans l'humilité. Oui, pour ce matin de Pâques, accueillons l'amour de Dieu qui s'est manifesté envers nous. Frères et sœurs, par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a restauré ce que le péché avait abîmé. Le péché n'est jamais anodin. Oui, par sa résurrection, le Père a glorifié le Fils et le Fils a glorifié le Père. Parce qu'il avait la capacité de donner sa vie, il avait aussi la capacité de la reprendre. C'est ce qu'il a dit. Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. L'apôtre Paul qualifiera de la résurrection comme les prémices. Que Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ comme les prémices. La première partie de la récolte, pour des Juifs, les prémices étaient offertes non seulement comme la meilleure partie de la récolte, mais aussi comme celle qui représente le tout, puisque tout appartient à Dieu. Ainsi, la résurrection, les prémices, constituent, je dis ici, la prééminence qui représente celle de l'Église. Si Christ est les prémices, nous sommes les moissons. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Aujourd'hui, nous pouvons marcher sans crainte. Grâce à la résurrection, nous savons que ceux et celles qui mettent leur confiance en cette résurrection ressusciteront aussi avec lui. Comme l'a souligné notre frère, M. Blocher, dans un de ses livres, Dieu est le Dieu des vivants, puisqu'il est le Dieu des vivants, qui s'est lié à des hommes comme Abraham, Isaac et Jacob, au point que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devienne son propre nom, il n'est pas imaginable qu'il les laisse dans la mort. Il n'est pas imaginable. Donc nous ressusciterons aussi avec le Seigneur. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, de son ascension auprès du Père, nous sommes aujourd'hui devenus des citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je prends ici une version de la Bible en français courant. Il dit ici, il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Il a la puissance de transmettre toutes choses, de soumettre toutes choses à son autorité. En attendant ce moment glorieux, cette espérance heureuse, bienheureuse, nous sommes appelés, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre cette espérance au quotidien, car la vie en Christ, c'est la foi en action. La vie en Christ, c'est la foi en action. Je souligne toujours une des phrases de notre frère Blocher dans l'Espérance chrétienne, qui dit « Jésus ne se contente pas d'enseigner la résurrection, il la pratique, il la vit. » Oui, j'ai aimé cette phrase. Vivre l'espérance chrétienne, frères et sœurs, ça m'amène ici à citer encore une dernière parole de notre Seigneur Jésus-Christ, citée par Jean. Au ciel, qu'est-ce qu'il dit à l'avant-dernière parole? Il dit « Père, tout est accompli. » Tout est accompli. En grec, il dit « Tetelestai ». Oui, certains théologiens traduisent par ce verset par « Tout a commencé ». Tout a commencé. Pour Christ, pour tous ceux et celles qui lui appartiennent, il y a une nouvelle vie qui commence. Pour ceux qui appartiennent à Christ, un nouvel espoir et de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui commence. Oui, Dieu a transféré nos péchés sur Jésus-Christ, quand il a fait tomber sur lui nos iniquités. Nous n'avons plus à payer nos péchés, parce que tout est accompli. Nous ne sommes plus sous la condamnation, car tout est accompli. La culpabilité, la punition de nos péchés ont été réglés au calvaire, car tout est accompli. Dieu l'a manifesté en ressuscitant Jésus-Christ. Oui, nous l'avons dit, quelle est la base de notre espérance. Notre espérance, ce qui nous donne de la valeur, la solidité de notre espérance, c'est la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Le tombeau était vide. Nous avons vu le témoignage des femmes. Les personnes ont vu Jésus-Christ après sa résurrection. Il a été ressuscité corporellement. Donc la base de notre espérance, c'est Jésus-Christ. En ressuscitant corporellement Jésus, sa puissance de vie se communique aux croyants aujourd'hui. Nous devons avancer. Nous sommes appelés à avancer avec cette puissance de la résurrection. Il nous arrive d'être souvent un peu frileux dans ce monde, mais ça doit être une réalité, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et oui, pour Paul, c'est la puissance de sa résurrection qui nous fera parvenir à la résurrection parmi les morts. Notre espérance, je le répète et on l'a déjà dit, notre espérance est basée sur Jésus-Christ, sur la personne de Jésus-Christ. Oui, attendons avec certitude le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, où il n'y aura plus ni douleur ni larmes. Vivons cette espérance au quotidien. Comment? Je termine par ces quelques... Comment vivre cette espérance au quotidien? En vivant dans la sainteté. Parce que nous avons vu ici le péché. Le Seigneur a accepté que son Fils aille jusqu'à la mort parce qu'il fallait que le péché soit payé. Sa sainteté ne pouvait pas admettre le péché. Et la Bible nous dit, comme il est saint, nous sommes aussi appelés à être saints, à marcher dans la sainteté. Ne relativisons pas le péché, comme dans ce monde aujourd'hui. S'il a accepté la mort de son Fils, afin que la justice soit faite, Dieu ne tolère pas le péché. Oui, dans certaines situations, frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher à contre-courant. La mort de Jésus-Christ n'était pas un jeu. Il s'est donné afin que nous puissions vivre maintenant dans la justice. Puissions vivre. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas la persécution des nouvelles lois qui doit nous faire peur. Mais c'est ce relativisme aujourd'hui. Vous avez vu dernièrement, les personnes sont allées manifester à Rome. Je n'ai rien à dire contre Rome. C'est un groupe d'homosexuels qui veulent combattre. Qu'on commence simplement à bénir leur union. Parce que maintenant, l'État le reconnaît, c'est comme ça. La Bible nous appelle, frères et sœurs, par la puissance de la résurrection, à lutter, à avancer avec le Seigneur, à vivre dans la sainteté. Ce ne sont pas des vains mots. Le Seigneur nous appelle si, oui, quand le Saint-Esprit nous convainc d'une mauvaise action, d'une mauvaise habitude, confessons ce péché, demandons pardon à Dieu et qu'il nous donne la force de l'abandonner. Parce que dans ce chemin, cette chemin d'espérance, il ne faut pas que des choses viennent nous alourdir. Mais la Bible nous donne cette confiance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que rien ne vienne de nous détourner de ce chemin d'espérance. Quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Vivre au quotidien cette belle espérance, c'est manifester notre amour aussi. Et à la justice, mais manifester notre amour envers Dieu. Cela se passe, je viens par l'obéissance à sa parole. Nous sommes appelés à la lecture, à la méditation d'une manière régulière de la parole de Dieu. Oui, la mise en pratique de cette parole. Vivre dans la louange, c'est aussi ça l'amour, manifester l'amour que nous avons reçu. L'amour envers Dieu, mais l'amour envers des frères et sœurs dans la foi. L'amour aux non-croyants et même à nos ennemis. Ah, c'est ça, vivre l'espérance au quotidien. Dieu et son Fils ont prouvé leur amour envers nous. Comment reconnaître l'amour véritable? L'amour véritable, c'est l'amour qui se donne, qui se manifeste, comme le Seigneur l'a manifesté. Il ne pouvait pas seulement rester dans un coin en disant « Oui, je vous aime ». Il s'est donné. Et nous sommes appelés, nous aussi, à marcher, à donner, à être prêts à se donner. Savoir donner de son temps avec l'autre, donner son argent pour l'œuvre de Dieu, et aussi donner ceux ou celles qui sont dans le besoin. Si le Seigneur nous bénit, pensons aussi à d'autres, à ceux qui sont autour de nous, peut-être qu'ils n'en ont pas suffisamment. Que notre amour ne soit pas de vaines paroles. L'amour, Dieu dit, l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque est né de Dieu aime et montre qu'il est de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, dont nous sommes appelés dans ce chemin d'espérance à donner cet amour aux autres. Oui, je dis bien, cet amour passe par des actions concrètes. Le pardon, savoir pardonner, savoir accepter et donner son pardon. J'ai vécu encore quelque chose hier d'une mère et de sa fille. Pour une peccadille, se sont enflammés. Mais certaines choses du passé sont revenues. Oui, tu ne m'as pas aimé. Oui, tu as fait ceci. Oui, tu as fait cela. Oui, mais tu m'avais demandé pardon. Combien de gens encore souffrent? Et souvent, même chez les chrétiens, on a du mal à pardonner. On a du mal à donner notre pardon. On a du mal à demander pardon. Moi, c'est comme ça, je suis comme ça. Non, ne nous laissons pas alourdir par la vie de péché. Saisissons ce temps pour nous poser des questions. Notre marche dans la justice, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Notre marche dans la sainteté. Où en sommes-nous dans notre marche dans l'amour? Et toujours, deux faces de la même monnaie, la sainteté, l'amour. Mais vivre dans l'espérance au quotidien, c'est aussi avancer avec une pleine assurance que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, quelles que soient les circonstances, frères et sœurs. Le Seigneur est au milieu de nous et le Seigneur est avec nous. Il nous accompagne dans notre marche quotidienne. J'aimerais terminer en relisant ces versets que notre jeune sœur a lus. Luc chapitre 24, verset 13 à 15. Il dit, ce même jour, deux disciples, en allant au village nommé Emmaüs, verset 14, il dit, ils s'entretenaient tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus aurait pu dire, je sais ce dont vous parlez. On nous dit, il pouvait dire, je suis Jésus, je suis le ressuscité. Le texte nous dit ici, frères et sœurs, il s'approcha et fit route avec eux. Nous voyons ici la patience de notre Seigneur, son sens de l'écoute. Il fit route avec eux. Oui, le Seigneur connaît nos lourdeurs. Le Seigneur connaît nos fragilités. Le Seigneur connaît nos défaillances, souvent nos manquements. Mais en même temps, il nous instruit avec patience et avec amour. C'est ça aussi la résurrection. Dans ce chemin d'espérance, nous avançons, nous savons que notre Seigneur est plein d'amour, plein de sollicitude envers nous. Pauvres pécheurs, la Bible. Vivons notre espérance au quotidien chrétienne, jour après jour. Oui, je me répète, mais je le dis, en marchant dans la sainteté, dans l'amour. Car Dieu est amour, il a tant aimé le monde, nous a tant aimé qu'il a donné son Fils, le Fils le plus cher, le Fils unique. Si vous voulez prendre avec moi, disons haut et fort, comme les disciples, le Seigneur est réellement ressuscité. Disons ensemble, le Seigneur est réellement ressuscité. Amen. Une nouvelle perspective s'ouvre à nous, frères et sœurs. Nous ne devons plus avoir peur de la mort. Nous serons bientôt avec nos bien-aimés qui sont maintenant auprès du Père. Oui, je termine par ce verset, Jean chapitre 11. Il dit, en vérité, puisqu'il est la résurrection et la vie, tous ceux et celles qui croient en lui vivront même s'ils meurent. En attendant cette espérance finale, la résurrection de notre corps, marchons avec assurance. Dieu le Père, Dieu le Fils est avec nous par la personne du Saint-Esprit. Il est avec nous, marchons avec assurance. Amen.